Comment vit-il après cela? Sans distinguer les désirs superflus des désirs nécessaires, il prodigue aux uns et aux autres son argent, ses soins et son temps. S'il est assez heureux pour ne pas porter trop loin ses désordres, et si, l'âge ayant un peu apaisé le tumulte de ses passions, il rappelle le parti qui a succombé et ne s'abandonne pas tout entier au parti vainqueur, il établit alors entre ses désirs une espèce d'égalité et livre, tour à tour, son âme au premier à qui le sort est favorable, jusqu'à ce que ce désir soit satisfait. Puis il passe sous l'empire d'un autre, et ainsi de suite, n'en repoussant aucun, et les traitant tous également bien. Oui, tu as raison, Socrate. Que quelqu'un vienne lui dire qu'il y a des plaisirs de deux sortes, les uns qui vont à la suite des désirs innocents et légitimes, les autres qui sont le fruit de désirs coupables. Qu'il faut s'attacher aux uns et les honorer, châtier et dompter les autres. Il ferme toutes les avenues de la citadelle à ce sage discours, et n'y répond qu'en branlant la tête, soutenant que tous les plaisirs sont de même nature et méritent d'être également recherchés. Dans la disposition d'esprit où il est, c'est bien là ce qu'il doit faire. Il vit donc au jour la journée, dans cette complaisance pour le premier caprice qui se présente. Aujourd'hui, il s'enivre et il lui faut des joueuses de flûte. Demain, il jeûne et ne boit que de l'eau. Tantôt, il s'exerce au gymnase, tantôt il est oisif et n'a souci de rien. Quelquefois, il est philosophe. Le plus souvent, il est homme d'État. Il se lance dans la politique, parle et agit à tort et à travers. Un jour, des gens de guerre lui font envie, et le voilà devenu guerrier. Un autre jour, ce sont des hommes de finance, le voilà qui se jette dans les affaires. En un mot, aucun ordre, aucune loi ne préside à sa conduite, et il ne cesse de mener cette vie qu'il appelle libre, agréable et fortunée. Oui, voilà au naturel la vie d'un ami de l'égalité. Cet homme, offrant en lui toutes sortes de contrastes, et la réunion de presque tous les caractères, a, selon moi, tout l'agrément et toute la variété de l'état populaire. Et il n'est pas étonnant que tant de personnes de l'un et de l'autre sexe trouvent si beau un genre de vie où sont rassemblées toutes les espèces de gouvernements et de caractères. Je le conçois, Socrate. C'est donc entendu. Mettons cet homme en regard de la démocratie, comme pouvant à bon droit être nommé démocratique. C'est entendu, Socrate. Il nous reste désormais à considérer la plus belle forme de gouvernement et le plus beau caractère. Je veux dire, la tyrannie et le tyran. Fort bien. Voyons donc, mon cher ami, comment se forme le gouvernement tyrannique. Et d'abord, il est à peu près évident qu'il provient de la démocratie. Oui, cela est évident. La manière dont la démocratie se forme de l'oligarchie n'est-elle pas à peu près la même que celle dont la démocratie engendre la tyrannie? Comment ?